Et là, il y a Suzy, non fictif, qui vient de m'appeler pour me raconter quelque chose. Écoute bien ça, Mélanie. Elle a acheté une maison directement du propriétaire. Mm-hmm. Donc, sans passer par un courtier. Et le propriétaire ne lui aurait pas déclaré un élément quand même important. Et sa voisine lui a dit 15 ans plus tard, lors d'une conversation de clôture, tu sais, quand tu sors les vidanges, c'est ce genre de truc-là.
Ça, c'est plate à prendre ça comme ça. Et c'est quoi l'événement?
Ben, écoute, en passant, là, il y a à peu près 15 ans ici, il y a eu un meurtre dans ta maison.
Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est horrible. C'est terrible. Moi, là, j'ai beaucoup de misère à croire que les gens ne font pas ces déclarations-là parce que c'est clair qu'éventuellement, les gens vont l'apprendre. Et c'est dommage pour cette dame-là qu'elle l'apprenne d'une voisine, mais c'est souvent ça qui arrive. Donc, au propriétaire, moi, je m'adresse au vendeur, là. Ayez pas peur de déclarer ces choses-là parce que ça peut rebondir. Cette dame-là, Suzy non fictif,
oui,
pourrait revenir contre l'ancien propriétaire pour y avoir caché de l'information.
Ben oui.
Là, ça reste, est-ce qu'elle a l'énergie de le faire, là? Ça, des fois, après 15 ans, les gens laissent tomber. Mais c'est sûr, je ne sais pas si ça a été médiatisé, je ne sais pas si, mais écoute, 15 ans après, elle habitait dans la maison. Probablement qu'elle y est très heureuse puis qu'elle n'a pas vu de conséquences à ça, mais ça reste que c'est ta déclaration obligatoire et que la maison est quand même identifiée par le voisinage aussi. C'est étonnant qu'elle ne l'ait pas su avant, en fait.
Tout à fait. On va parler avec Igor. Bonjour, Igor.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission. Je suis dans les voitures, écoutez un petit peu les conversations sur l'immobilier, les ventes de la maison, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je voulais lui poser une question et en même temps compter quelque chose. Moi, j'habite à Laval-Ouest, dans une petite bungalow, et j'avais une maison en face de moi, grosso modo, mon voisin. En fait, c'est la maison qui appartenait à un monsieur qui était mort, qui laissait la maison à ses deux enfants en vente. Et la maison, elle était comme pas être en vente pendant certains temps. Il est mort l'année passée. Et au début, j'ai regardé la maison, elle valait peut-être 220 000 dans le top. C'est un petit bungalow qui n'était pas rénové depuis les années, je vais dire, 60-70. Mm-hmm. Et au début, je voulais l'acheter. Par contre, ils ont étiré. J'ai décidé de faire plutôt un grandissement chez moi. Et finalement, comme du coup, il y a deux semaines, la maison s'est mise en vente. Et de ce que j'ai lu, la maison était affichée à 325 000 $. Finalement, de ce que j'ai compris, ce que j'ai su, la maison était vendue à 380 000.
Oui.
Je pense que la personne n'est pas encore passée dans les banques. Mais j'ai une question. Parce que, écoutez, je ne suis pas évaluateur, je suis juste la personne normale. La maison, il ne vaut pas ça. Est-ce que c'est possible que la banque... la personne qui veut l'acheter, ils peuvent refuser de le prêter l'argent à la personne qui l'a acheté ou est-ce que c'est possible les cas comme ça?
Très bonne question. Hein?
Oui, et ça peut arriver, Igor. C'est sûr que dans le marché actuel, les évaluateurs des banques tentent de s'adapter au marché aussi. Donc, c'est clair que des maisons qui se vendent en offres multiples comme ça, les évaluateurs vont s'ajuster selon le nombre d'offres qui ont été reçues sur la propriété. Mais effectivement, j'ai vu dans les dernières semaines des cas assez rares quand même, mais des cas où la banque évaluait la propriété à un montant inférieur au prix de la promesse d'achat. Et ce qui arrive à ce moment-là, Igor, soit que la personne se fait refuser son prêt, ou bien elle doit avoir assez de liquidité pour combler la différence. Donc, exemple, là, on va prendre votre maison à 380 000. Si la banque, si l'évaluateur l'évalue à 360 000, eh bien, ça veut dire que l'acheteur devra mettre en liquidité 20 000 de plus pour combler la différence et le risque que la banque ne veut pas prendre. Mais, comme je vous disais, ça n'arrive que très rarement. Même des propriétés qui ont été vendues 100 000, 150 000 de plus, souvent ont passé l'étape de l'évaluation de la banque parce que c'est clair que les évaluateurs tiennent compte de l'offre et de la demande aussi. S'il y a eu 20 promesses d'achat, c'est le marché qui est comme ça. Donc, c'est sûr que ça fait monter la valeur d'une propriété. Mais ça arrive, Igor, oui, que des gens se font refuser au financement s'ils n'ont pas les liquidités.
Parfait, merci. François, on vous écoute.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui.
Alors, j'ai une question. On a acheté, ma femme et moi, un condominium à Bromont, là, environ 2 ans. On est dans la deuxième phase. Donc, ils ont terminé la première phase cette année. Ils ont commencé la deuxième phase, sauf qu'ils n'ont pas réussi à obtenir le permis pour notre section à nous qui contient 8 condominiums. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que la ville de Bromont, finalement, ne voudra pas émettre le permis parce qu'il y a un arbre centenaire près du condo. Donc ma question, c'est, là, ils nous disent que peut-être qu'ils vont nous donner priorité dans la phase 3-4, mais c'est plus les mêmes prix. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Bonne question. Donc, si je comprends bien, vous avez acheté il y a 2 ans et la construction n'est même pas complétée, là.
Non, pas du tout. Elle n'est même pas commencée.
Elle n'est pas commencée, c'est ça, vous avez acheté.
Il y a eu un délai à cause de la pandémie, évidemment.
Oui.
Puis quand ils ont commencé la construction de la phase 1, les permis, tout était correct. Puis la phase 2, moi, ce que je comprends pas, c'est... Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas obtenu les permis avant. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais là, ils n'ont pas le permis pour notre phase à nous. C'est-à-dire,
c'est particulier. C'est quand même particulier, ouais, là, dans vos documents. Là, j'ai pas le dossier devant moi, mais tu sais, quand on vend quelque chose, il faut s'assurer qu'on puisse le bâtir, là, normalement. Donc, les permis à cause de l'arbre centenaire, c'est embêtant, François, parce qu'il y a plusieurs vérifications à faire dans votre dossier. Et c'est clair que les prix aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ils vous réservent la phase 3, mais j'imagine en payant la différence de prix.
Bien, exactement. C'est ça que je trouve vraiment très plate.
C'est pas mal plus cher.
Si on parle pas juste 10 %, là, on parle quasiment du double du prix qu'on a payé il y a 2 ans.
Ben oui, parce qu'il y a 2 ans, les condos, c'est encore accessible à Bromont. Aujourd'hui, tout le monde se lance dessus. Écoutez, François, moi, je vérifierais que ce qui est prévu dans votre contrat, dans vos clauses, le fait qu'il n'y ait pas eu son permis avant de vous vendre le condo sur plan. Vous, vous avez donné un dépôt, c'est ça?
Oui.
OK. Moi, oui, c'est ça. Ben, je revérifierais. Là, j'ai pas le dossier, on peut prendre vos coordonnées, puis peut-être que je peux vous aider hors d'onde, là, parce que j'ai pas le document devant moi. Vous n'étiez pas accompagné d'un courtier quand vous avez acheté?
Oui, ben c'est un courtier qui est là-bas qui s'occupe du projet.
Ah, OK. Ben, écoutez, reparlez à ce courtier-là. Je peux peut-être vous éclairer sur certains points généraux. Je peux pas m'immiscer dans le dossier qu'un autre courtier a traité. Par contre, ça vaut la peine de poser plus de questions là sur le fait. Relisez votre contrat comme il faut. Est-ce que c'était conditionnel à l'obtention du permis? Est-ce que, tu sais, faut voir qu'est-ce qui est écrit dans votre contrat. Et c'est vraiment dommage, effectivement, parce que qu'il y a des petits dépassements de coûts, c'est une chose. Mais là, une autre phase. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, alors qu'on connaît la situation, c'est vraiment pas facile. Donc, François, on a vos coordonnées. Et puis, on tente de se reparler, mais relisez votre contrat comme il faut et reparlez à votre courtier.
Ben voyons donc, là. Fait que vous avez fait des versements au contrat préliminaire.
Non, OK. Ce qu'il demandait, c'est qu'il demande 5 % à la signature du contrat.
Oui.
Un autre 5 % ensuite de ça, quand ils mettent le béton. Puis le dernier, après ça, ben là, tu fais okay. Le reste de ton contrat.
Donc, un versement quand même. Un versement, c'est pas rien. Puis là, il n'y avait pas de date de livraison dans le contrat préliminaire.
Je trouve ça long, 2 ans, là. Sérieusement, c'est long. Je comprends pas aussi l'histoire du permis. Parce que la pandémie a le dos large. Là. Il y a quand même des gens qui ont bâti. Là. Il y a des projets qui se sont conclus en pleine pandémie. Donc, moi, je veux pas blâmer personne parce que, comme je vous dis, j'ai pas le dossier en main. Mais franchement, il y a beaucoup de condos neufs qui se sont vendus en pandémie et qui sont prêts. Donc,
alors, François, on va faire un suivi avec vous. Là. Puis, bonne chance.
Bien, merci beaucoup. Très
merci d'avoir appelé.
Oui, Wardin est là. Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais poser une question sur le même sujet de suicide. On voulait acheter une maison et puis dans le rapport qu'on avait demandé, c'était écrit qu'il y avait un incident. Et notre courtier nous a dit « Ah, c'est pas méchant, un incident, ça doit être un petit feu ou quelque chose comme ça. » Mais on a insisté pour savoir la nature de l'incident. Puis on a appris que c'était... Il y a eu un meurtre dans la maison, mais que la personne n'est pas décédée dans le domicile, dans la propriété, qu'elle était décédée à l'hôpital. Donc, comment est-ce qu'on prend la chose comme lorsqu'il y a un suicide, qui, justement, après ça, on a demandé pourquoi, quelle différence ça fait, et on nous a dit que, justement, c'est mal vu, quand vous voudrez la revendre, ça se revend pas, ça n'a pas la même valeur, ainsi de suite. Donc, on ne s'est juste pas avancé dans l'affaire, mais c'est une chose qui est restée dans ma tête. Puis, plus tard que ça, je me disais, c'est une belle résidence, mais qui a dégringolé dans le prix parce qu'on voyait qu'elle ne se vendait pas. Puis là, on ne comprenait plus
C'est très intéressant, ben Wanda, parce que là, c'est une déclaration, mais...
Une semi-déclaration.
Oui, il faut que tu le dises clairement, là.
Bien, surtout un meurtre, là, qui a sans doute été couvert dans les médias. Tu sais, ça arrive pas chaque jour, puis la maison est probablement identifiée comme ça dans le voisinage. Donc, il y a moyen de donner des précisions autres qu'un incident. Tant qu'à moi, c'est plus qu'un incident.
Parce qu'un incident, ça peut être, j'ai échappé ma coupe de vin par terre
aussi. Ça, c'est
aussi,
un incident.
Là, donc, il faut absolument l'écrire noir sur blanc, là. Il y a eu un meurtre. C'est ça, la déclaration. Là.
Si la personne, effectivement, est décédée ailleurs, il y a moyen de le préciser aussi, mais il faut l'écrire. Il y a eu un crime dans la propriété.
Il y a eu un crime.
Exemple, une attaque contre une personne qui est décédée à l'hôpital, peu importe, mais le crime a été commis dans la maison, il faut que ce soit déclaré.
Parfait. Alors, bonne chance,
Wanda.
C'est
délicat tout ça, hein? C'est vraiment délicat, puis les gens marchent sur des œufs.
Oui.
Mais dites-vous, si vous vous posez la question, est-ce que je devrais le dire ou pas le dire? C'est toujours mieux de le dire, parce qu'il n'y a rien de pire que de l'apprendre par des voisins après, puis d'être la personne trompée, là, que tout le monde le sait, sauf toi, là. C'est vraiment, c'est une situation comme ça. Donc, merci beaucoup, Wanda, d'avoir appelé.
Merci à vous. Bonne chance dans votre émission.
Merci.
François, on vous écoute. Hélène, on vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, pour aider mon enfant à financer l'achat d'une propriété parce qu'elle n'a pas, malgré un bon salaire, elle n'a pas un assez long historique de crédit. Mm-hmm. On m'a parlé de la contre-lettre ou prêt non familial.
Oui.
Oui. Donc, à quoi ça consiste, cette contre-lettre-là, et qu'est-ce que ça m'engage en tant que parent?
Ben en fait, c'est comme si vous endossiez votre fille. Là, vous êtes responsable en partie de son hypothèque. Vous portez garant de cette propriété-là, finalement. Là. Une contre-lettre, ça vient confirmer. En fait, là, je veux vous le dire simplement, si votre fille ne paye pas son hypothèque, ils vont aller vous voir.
OK. Mais ensuite, oui. Si moi, je lui revends, donc, dans le fond, ma part de sa propriété et que moi, je veux revendre mon autre propriété ensuite, est-ce que c'est comme avoir deux maisons en même temps ou est-ce que ça compte pas au niveau capital? Ou est-ce que je devrais demander à François Gagnon?
Ben oui, François a peut-être certaines réponses fiscales, mais par contre, moi, j'ai déjà vu des gens, justement, où il y a une contre-lettre, effectivement, pour obtenir le prêt hypothécaire. Là, c'est sûr que souvent, il faut que vous soyez sur la promesse d'achat. Il faut, sur l'acte de vente, il y a une mention.
Ça va faire partie de son ratio d'endettement.
Exactement. Oui. Exactement. Parce que si votre fille ne, je suis certaine que vous avez une belle relation, mais si jamais votre fille ne payait pas, à ce moment-là, vous êtes quand même responsable d'une propriété. Oui. Alors, puis là, vous voulez savoir si vous revendez votre maison à vous, si vous allez payer
La sienne, premièrement, est-ce que j'aurais un gain en capital? Et après ça, la mienne, est-ce que je pourrais vendre, disons, dans la même année?
Mais votre propriété, résidence principale.
Oui, puis votre fille, c'est comme dans le patrimoine familial. Mais c'est une bonne question,
c'est une bonne question, oui.
On va vous revenir aussi, Hélène.
Oui, parce que votre maison, vous ne payerez pas. Là. Je veux dire, le gain en capital, vous devez déclarer votre vente de propriété sur votre rapport d'impôt. Ça, c'est sûr. Oui. Mais si
celle de ma fille.
Celle de votre fille aussi, si vous êtes engagé là, via une hypothèque ou via un acte de vente, tout ça, vous êtes en partie responsable de la propriété. Mais on va poser la question, on va vous revenir, Hélène. Il y a une question de fiscalité aussi.
Je pense pas qu'il y ait d'imposition sur un gain à capital, vu que c'est votre fille. Là. Mais on va vous revenir, Hélène. Merci d'avoir appelé.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est intéressant.
Oui.
Il y a tellement de...
Il y a tellement de questions. Moi, ça me fascine à chaque dimanche.
C'est à l'infini, l'immobilier. 11h47, on va revenir pour le dernier droit de l'émission dans un instant.